Crépir un mur, c'est un des trucs les plus difficiles qui soient en maçonnerie. Et faire un crépi à la truelle et lisser à la taloche, enfin, faire ça proprement, le premier que vous faites, vous allez chercher un témoin, le mec il éclate de rire, il y a trois fois plus de ciment par terre qu'il y en a sur le mur, tout est inégal, tout est pourri. Et puis vous vous rendez compte que le geste, comme au tennis, comme en toute chose, le geste s'apprend. Et je crois que le geste d'écrire s'apprend en écrivant.
C'est l'histoire d'un homme qui sait crépir un mur et qui a écrit 21 romans depuis le milieu des années 80. Jean-Paul Dubois fut journaliste à Sud-Ouest, au Matin de Paris, puis au Nouvel Observateur. Il publie un premier roman en 1984, donc ça fait 40 ans pile. Sûr que la date doit lui donner le vertige, mais écrire fut la meilleure option pour exercer quelques droits. Ce que Jean-Paul Dubois revendique, je le cite, « le droit à la paresse, au bonheur et à la dépression ». Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon. Cette phrase le raconte et il l'avait choisie comme titre d'un roman qui lui a valu le prix Goncourt il y a 5 ans. Entrer dans un roman de Dubois, c'est retrouver Paul, narrateur changeant et présent dans tous ses livres, c'est arpenter une mémoire, profiter d'une ironie douce et fréquenter la mélancolie souvent dégoupillée par l'humour. Le dernier livre de Jean-Paul Dubois s'intitule « L'origine des larmes ». Il l'a écrit à Toulouse, là où il vit donc, et je l'ai rencontré chez son éditeur à l'occasion d'un de ses rares passages à Paris. On nous a attribué une pièce et on s'est assis côte à côte tous les deux, derrière un bureau, comme si on allait consulter un notaire ou un docteur. Comme il y avait beaucoup de bruit juste à côté, on a tenté de fermer la porte. Et voilà, le ton d'une conversation peut être donné par ça. Savoir fermer une porte de bureau ou pas.
Totémique. Rebecca Manzoni sur France Inter.
Ça ferme pas, c'est vrai?
C'est plus bloqué. C'est normal, vous faites une interview avec moi. C'est toujours des trucs comme ça.
On essaie de fermer la porte et on n'y arrive pas. Attendez. Ça a l'air de tenir, là. Et en même temps... Attendez, on va mettre le siège devant. Et vous disiez, c'est toujours comme ça que ça se passe avec moi, il y a toujours...
Non, je les emmerde, je suis toujours... Si je participe à un truc, c'est qu'il va y avoir un problème. Quand il y a une tempête, ça c'est un truc qui était typique, il y avait souvent des tempêtes à la maison, j'ai une clôture en bois, toutes les clôtures des voisins ne sont jamais touchées par la tempête. La mienne part tous les ans, voilà. Voilà le type que vous avez en face de vous.
J'espère que mon téléphone va fonctionner pour qu'on écoute les sons que vous avez choisis. Parce que j'aimerais bien qu'on commence par écouter la musique que vous avez choisie.
Moi, je la connais par cœur.
Ouais, mais c'est toujours bien de l'avoir dans l'oreille.
1967, le groupe Procol Harum chante « A Whiter Shade of Pale ».
Il est magique, ce morceau. Moi, je souris. J'aimais beaucoup ça à cause de l'orgamon. C'est un instrument qui m'a toujours fasciné, l'orgamon, et il occupe une partie majeure dans ce morceau. Et le texte, je vais essayer de le comprendre, de le traduire, personne n'a jamais compris ce que ça voulait dire. Ça n'a aucun sens, c'est des délires, c'est des phrases alambiquées. Et c'est un morceau qui est, pour moi, le commencement du bonheur de devenir autre chose qu'un gamin... élevé par des gens qui ne le comprenaient pas et qui ne comprenaient pas. Voilà.
Alors, élevé par les jésuites, c'est à ça que vous pensez?
Élevé, non, ils m'ont fait chier, ils m'ont pas élevé, ils m'ont abaissé. J'étais abaissé par les jésuites, j'ai été physiquement torturé par ces mecs-là, moralement blessé. Ils ont abîmé une jeunesse, mais pas la mienne. Tous les mecs étaient là, avec la complicité des parents qui nous mettaient là-dedans pour devenir des mecs carrés, sérieux, reproducteurs. Enfin, c'est une époque douloureuse. Quoi. Ce morceau, pour moi, c'est la fin. C'est-à-dire, c'est le dernier jour d'école, on balance tout et on y va. Et aujourd'hui, la fête commence, la vie commence.
Let her face at first just go sleep. Turn the wider shade off.
Moi, j'ai le souvenir à ma jeunesse, c'est les musiques qu'on jouait dans notre groupe. On faisait que ça. Il n'y avait que ça. Et ça a duré jusqu'à 30 ans, cette connerie, quand même. Donc, c'était un luxe phénoménal. On vivait que pour ça. J'avais un combi Volkswagen peint en 5 couleurs. Et on allait jouer, on louait une maison pourrie au bord de la mer. On se retrouvait tous pour aller jouer des morceaux. Et on jouait comme des merdes. C'était lamentable. On était mauvais comme des cochons. Mais c'était cette innocence, c'était une vie. Et je vois qu'aujourd'hui, la génération de mes petits-fils, qui a aujourd'hui 25 ans, ils sont issus de notre monde. Le rapport au temps et le rapport au travail n'étaient pas le même. Moi, je les vois travailler. Je pense que le mec de LVMH, il travaille beaucoup moins que mes petits-fils. Et c'est quelque chose. Alors, au début, je dis c'est terrifiant. Je me dis, ben non, c'est autre chose. Voilà. C'est-à-dire, nous, on a commencé la vie par le jeu, sous toutes ses formes.
Vous avez réussi à maintenir ce cap, comme écrivain, comme homme, comme journaliste.
Mon problème, ça a été de trouver des travaux qui maintiennent la liberté du temps de vie. Je me suis rendu compte que faire des livres, c'était pas très compliqué, que ça permettait d'avoir un temps pour soi qui était phénoménal, qui était énorme.
C'est l'une des motivations pour écrire ?
C'est la seule. C'est la seule parce que j'ai côtoyé la littérature américaine qui était très directe, qui ne nécessitait pas un apprentissage culturel très élaboré. C'est la continuation du jeu de l'enfance par d'autres moyens, même si c'est très triste, même si c'est très sombre, même si la mort est là. C'est un espace de liberté énorme. C'est un luxe phénoménal. C'est là où je parle de chance. C'est que ça marche. C'est que vous pouvez vivre de ça en travaillant un mois par an. En travaillant, je dis, pour votre métier. C'est dément, quoi. C'est là où vous dites, finalement, c'est une vie de fiction. C'est hors de la réalité. Mais moi, je l'assume, je le concède. Heureusement, à côté, je travaille. C'est-à-dire, je fais des vrais travaux physiques, des travaux manuels et tout. Ça vous recadre très vite. Et je suis beaucoup plus à l'aise là-dedans.
Vous êtes plus à l'aise dans les travaux physiques de réparer la clôture et retaper un toit que d'écrire?
Oui, je suis plus à l'aise parce que je suis pas costaud. J'ai une tête qui est pas costaud. Je suis fragile. Je vis en permanence avec des idées sombres, des idées avec des choses sombres et tristes depuis l'enfance. Et quand je fais des travaux, que je suis à l'extérieur, que je sollicite mon corps, la tête est au repos. Et quand je fais un livre, c'est l'inverse. C'est le corps qui est au repos et la tête qui prend le boulot, la mémoire ancienne qui revient, qui dégorge. C'est mécanique. C'est aussi bête que ça. Je sais que quand je me mets au boulot, ça va revenir. Donc c'est un travail qui est moins confortable psychologiquement que de se casser le dos. Comment vous dire J'ai fait un travail la semaine dernière. J'aurais jamais cru à mon âge que j'arriverais à le faire. C'était sous la pluie. Tombaient des cordes, il y avait un vent de merde. J'avais 4 couches de vêtements et tous les soirs j'étais trempé à l'os. J'ai fini ça, je me suis senti 20 piges. J'étais heureux, j'étais content, j'ai dit putain. Tandis qu'un livre, imaginez une brocante où il y a tous les éléments que vous avez eus dans votre vie, dans votre jeunesse. Il y en a, mais c'est un truc, c'est Emmaüs au cube. Et vous arrivez là-dedans, et vous marchez, et tout d'un coup, les choses montent, arrivent, et vous retrouvez du passé. C'est quelque chose toujours qui est... forcément, je pleure à la fin, à chaque fois. Je pleure plusieurs fois pendant le livre, quand c'est triste. Tout prend une dimension premier degré de gamin. Moi, je suis à fond dedans, quoi. J'ai pas encore la distance pour me dire « Arrête tes conneries, c'est un livre ». Il y a plein de choses vraies qui rentre dans le livre comme ça. Pas par effraction, mais c'est la mémoire qui dit pop-up. Il y a un truc là. Tu te souviens de... Ah oui, j'ai dit, c'est vrai. Il y a une histoire qui était dans le livre précédent d'un prisonnier qui s'évanouit chaque fois qu'on lui coupe les cheveux parce qu'il ne supporte pas qu'on lui coupe les cheveux. Et c'est l'histoire de mon petit-fils quand il avait 5-6 ans qui perdait conscience quand sa mère lui coupait les cheveux parce qu'il était persuadé qu'on lui coupait une part de lui-même et il ne le supportait pas. Et... ça arrive naturellement.
C'est quelque chose que vous accueillez, en fait.
Ah ouais, j'accueille le passé, la mémoire, des émotions. Et souvent, je rêve de mon livre pendant que je le fais. Comme je dors peu, c'est quand même c'est la névrose en ayant plein, quoi. Mais je le prends toujours comme un gosse. C'est-à-dire que t'as voulu te faire peur, tu y es. Maintenant, tu te démerdes, tu fais ton bouquin, et puis surtout, tu te plains pas.
Voici les premières lignes de L'origine des larmes, nouveau roman de Jean-Paul Dubois. Il pleut tellement, et depuis tant de temps, des averses irréversibles qui semblent surgir de partout, la nuit comme le jour. Parfois, une accalmie laisse entrevoir une partielle du ciel d'autrefois, bleu lavé, mais très vite assombri par de sombres vagues de nimbocumulus. Cela fait 2 années que le temps s'est graduellement détrempé, transformant cette ville de briques sèches en une vallée lessivée par un régime de pluie.
On me parle de l'eau qui est dans ce livre. Cette eau, elle vient du premier film de Lars von Trier qui s'appelle Element of Crime. La première scène, c'est un Européen qui est sur le lit d'Amcy, le divan d'Amcy, et il lui explique que l'Europe est sous l'eau. Et on voit là des images, et le type dit « Water, water, everywhere, nor any drop to drink ». Je n'ai jamais oublié cette image de film.
D'où la pluie incessante dans L'origine des larmes.
D'où la compréhension que l'eau est un élément majeur, comme le froid au cinéma. S'il pleut, vous pouvez faire beaucoup de choses. S'il neige, s'il fait froid, vous pouvez faire énormément de choses. Ça va être facilité. Ce sont des facilitateurs pour moi. Ah bah oui. Le froid et l'eau créent un monde et un acteur en lui-même. Là, en plus, j'ai fait ça du 1er au 31 août cette année. Et il faisait 40 le jour, 30 la nuit, 2 mois et demi sans pluie. Lars von Trier l'emporte sur la réalité de la météo, quoi, dans ma mémoire.
Elle, c'est Marion Rampal. Lui, c'est Bertrand Belin. À deux, ils chantent « De beaux dimanches ».
Où partait l'aurore dans ses bas gris, dans ses eaux bleues. Mon s'accrocher à l'arbre, ma vie m'a prise. Je suis au fer, presque à ton bras. Passer lentement sous le ciel qui change ses habits sans faire de beaux dimanches, sans faire de beaux dimanches. 12 heures puis le reste, on nous s'attourne à travers le temps. Pourquoi le jour m'empêche, mon joli chien, qui tôt matin me mord le bras, les yeux, les parallèles, les suivre jusqu'au ciel, et tourner mon nom.
Suivre jusqu'au ciel
et tourner mon ombrelle. Ce n'était qu'un doux rêve. Sans faire
Dans chacun de ses romans, ou quasi, Jean-Paul Dubois met en scène un personnage principal qui se prénomme Paul. Dans son dernier livre, L'origine des larmes, Paul est un homme qui a grandi contre son père, donc avec la colère et la haine de son géniteur. Au point qu'au décès de ce père, lorsque Paul se retrouve devant le cadavre, il lui tire 2 balles dans le crâne. Un parricide post-mortem, une mort au carré en somme. Paul est arrêté et se voit condamné à une obligation de soins auprès du docteur Guzman, un psychiatre qui a souvent la larme à l'œil. Paul remonte le cours de sa vie devant le docteur, la figure permanente d'un salaud de père, et entre autres, il évoque le jour tragique de sa naissance. Ce jour-là, le frère jumeau de Paul et sa mère Martha meurent. Extrait. Nul ne peut prétendre raconter le récit de sa naissance. Pourtant, je me souviens, disons, de l'essentiel. Je ne saurais dire par quel canal d'enregistrement ces moments se sont inscrits en moi. La mémoire n'y est évidemment pour rien. C'est autre chose, une capture de sensations, de la peur panique, un froid glacial, et sans doute la découverte d'une peine primaire, un chagrin animal, une détresse archaïque. Comme si les chairs et les os avaient fait le travail d'archivage, comme s'ils avaient classé chaque moment, chaque molécule. Chacun de mes anniversaires commémore la mort de Martha et de mon frère. L'origine des larmes se trouve là, au fond du ventre de ma mère. Jean-Paul Dubois.
Pour moi, c'est le livre à lui tout seul, ça, c'est-à-dire vivre avec son frère et il meurt le jour où vous naissez. C'est-à-dire c'est lui qui laisse la place. Il sera présent toute une vie. C'est le type avec lequel vous allez vivre intensément, plus qu'avec votre famille ou vos enfants. C'est celui que vous avez aimé en premier et que vous n'aimerez jamais plus. J'aime bien que dans le livre, il y ait le souvenir de la naissance. Que quelqu'un arrive à se souvenir de sa naissance, de ce qui s'est passé, par la mémoire des os. Des os OS. Mais j'aime bien cette idée, je serais même capable de la défendre dans un congrès de psychiatrie. Mais c'est vrai, je vous assure, quand je l'ai écrit, je me suis dit, putain, mais ça, c'est vrai, c'est ça, la mémoire des os. Je suis sûr qu'eux se souviennent de ce qui s'est passé ce jour-là, de la façon dont t'es sorti, ce qui est parti en premier. Qu'est-ce qui est sorti en premier? Qu'est-ce que t'as ressenti? La peur, Et j'aime bien l'idée que les os, comme un tronc, vous savez, les troncs circulaires, que le premier cercle du tronc, lui, sache ce qui est arrivé.
On sait très peu à quoi ressemblent les personnages, physiquement. Par exemple, le docteur Guzman, ou Guzman, qui est psychiatre, on sait qu'il a un problème à l'œil, puisqu'il a l'œil droit qui pleure en permanence. D'ailleurs, à la lecture, je me suis dit, ça a dû vachement l'intéresser, tout le truc médical, non?
Bien sûr.
Parce que... Il y a un vocabulaire hyper précis.
Vous faites un sourire de prédateur en disant ça. Savoir qu'il est coincé, c'est l'animal qui est coincé dans le coin.
Ouais,
oui, bien sûr, mais oui, c'est le dacryocérum. J'ai été un grand consommateur de dacry. Mais j'adore le médical. J'adore le médical. Si j'avais été malin, j'aurais aimé être médecin. Et donc, j'adore comprendre le fonctionnement du corps, en fait. Comprendre le bordel qu'il y a dans une tête, la biochimie, la fragilité d'un mécanisme. Les yeux qui scannent en permanence tout, c'est comme sur un disque dur.
Mais comment, justement, ce vocabulaire médical, qui est quand même très spécifique, s'insère dans le texte?
Internet.
Internet a changé votre façon d'écrire?
Non. Mais ça l'a incroyablement enrichi. Moi, j'aurais plein d'exemples à vous donner de livres enrichis par des histoires que j'ai découvertes sur Internet. Vous allez chercher...
Par exemple, un secrétaire général des Nations Unies qui a été prix Nobel de la paix et qui s'appelle Dag. Mais vous avez...
Dag Hammarskjöld,
qui d'ailleurs était présent dans une nouvelle précédente.
Ouais.
Et qui là...
C'est mon grand-père.
Le personnage pense que c'est son grand-père. Et là, vous venez de dire, c'est mon grand-père.
Ben oui, parce que quand je raconte le livre, je suis le type qui va tuer son père une deuxième fois.
Vous êtes Paul.
Et je suis, mais dans tous les livres, je suis Paul, parce que c'est beaucoup plus simple, parce que la voix off doit être toujours la même. Et comme si c'est elle qui écrit et lit à mesure qu'elle écrit, c'est toujours le même acteur, la même voix off, le même doublage qui se met en place. Mais Dag Hammarskjöld, c'est l'exemple parfait. J'étais dans la voiture de mon père quand Dag Hammarskjöld est mort, à 11 ans. Et j'ai gardé dans ma tête, parce que j'ai cette mémoire à la con, qui fait que tout d'un coup, il y a un truc qui rentre et ça sort plus. Et je dois répéter ce mot pendant 40 ans. Je vais répéter la gamme Marshall dans ma tête, comme ça. Il n'en est jamais sorti. Et je me suis dit, j'ai aimé cet homme, l'image de cet homme. Mais là, j'ai découvert qu'il avait créé une pièce de méditation à l'Organisation des Nations Unies. C'est lui qui l'a créée pour faire venir, avant de voter chaque loi quand il était secrétaire général, les mecs qui allaient émettre en vote en leur disant « Vous allez dans la salle de méditation et vous réfléchissez à ce que vous allez faire, aux conséquences que ça va avoir sur les gens qui vous entourent. Vous allez réfléchir, ne pas parler et ensuite, on ira voter. » Je dis « Putain, le mec, il est gonflé, quoi. »
C'est génial.
Mais oui, mais c'est gonflé. Ça vous donne une autre dimension. Et ça, c'est merci Internet.
Quasiment tout le temps, le personnage se prénomme Paul. Vous, votre prénom, c'est Jean-Paul. Et vous utilisez la première personne. Il parle à la première personne. Pourquoi vous faites ce choix du « je » ?
Parce que je trouve qu'au cinéma, la voix off a toujours plus de poids. Et vous rentrez directement. Est-ce que vous vous souvenez du début, c'est pas un film terrible, qui s'appelle American Beauty?
Oui.
Les premières images d'American Beauty sont un chef-d'œuvre, que ça dure 20 secondes, c'est le mec qui est mort, et il raconte ce qu'était sa vie avant de mourir en 30 secondes.
Pour mémoire, le voici, le début du film American Beauty.
Je m'appelle Lester Burnham. Ça, c'est mon quartier. Ça, c'est ma rue. Ça, c'est ma vie. J'ai 42 ans. Dans moins d'un an, je serai mort.
La porte est ouverte, quoi. C'est-à-dire, vous entrez déjà chez le gars. On est dans sa vie. C'est pour ça que le jeu, c'est pas une mise en position dominante. Au contraire, c'est... On s'assoit, c'est... Voilà, c'est... On bavarde depuis un moment. Là, je vous raconte une histoire.
Et de fait, on est d'égal à égal.
Mais exactement, exactement. Exactement. C'est comme quand vous discutez avec un lecteur, il ne faut jamais être assis, il faut toujours être debout. J'ai toujours été mal à l'aise quand je vois les gens signer des livres assis, mais ça, c'est mon éducation. Quand vous êtes assis, vous recevez. Vous voyez ce que je veux dire ?
Mais de fait, vous signez debout ?
Généralement, je ne signe jamais. Parce que...
comme ça, le problème est réglé.
Non, vous savez pourquoi ? C'est une forme de timidité et de malaise, parce que je ne sais pas me tenir devant des gens qui me disent qu'ils m'aiment bien. La conversation est bidon, elle est tronquée, parce qu'il n'y a pas de temps. C'est des formules. Alors, où vous êtes capable d'éviter des formules toutes faites en expédiant, entre guillemets, le client en 30 secondes ? Mais je ne sais pas faire ça. Donc, plutôt que de souffrir, de me mettre mal à l'aise et de pas bien traiter les gens, je préfère éviter de le faire. C'est un malaise, quoi. C'est un truc... C'est un rapport social que je ne connais pas et qui me plaît pas.
Est-ce que écrire, ça s'apprend pour vous ?
Ouais. Ben non, ça s'apprend pas. Mais on apprend à écrire soi-même. Moi, j'ai appris dans le journalisme. J'ai beaucoup travaillé, parce que j'ai travaillé dans des journaux, surtout dans un qui était et qui est toujours prestigieux, et où il y avait des gens, quand j'y suis arrivé, qui étaient des... C'était des aigles, quoi. C'est des avions de chasse, des mecs qui avaient des noms, et surtout qui étaient très brillants. Alors, vous êtes obligé de vous tenir, quoi. C'est comme vous allez manger chez la reine d'Angleterre, vous n'y allez pas avec un débardeur, même si ça vous, c'est pas votre goût. Mais donc, ces gens-là m'ont appris à me tenir.
En écrivant.
En écrivant, bien sûr. Et en lisant quelques patrons, quoi. Mais des gens qui sont... auprès desquels vous faites allégeance, parce que, un peu comme les arts martiaux au Japon, il y a un moment donné, vous reconnaissez votre maître et vous savez qu'il va vous apprendre quelque chose. John Updike. J'ai lu les 37 livres de John Updike.
Écrivain américain.
Ouais, c'est un type formidable qui est... C'est ça, j'aurais aimé être un type comme ça.
Qu'est-ce que vous avez appris à la lecture des 37 ouvrages de John Updike ?
À se tenir, à ne pas avoir honte de ce qu'on fait quand c'est fini. Moi, ça m'est arrivé, ça. Ça m'arrive. Même ça m'arrive encore. Mais j'ai l'impression que j'ai progressé dans la modestie. Au début, je faisais le malin pour montrer que j'étais pas si con que ça. Et puis, je me suis aperçu que ce que j'aimais, en définitive, c'était des mecs élégants. C'est con à dire, mais qui me faisaient ressentir des choses avec subtilité. Je m'en essaie toujours de la fin d'un livre d'Updike. C'est un père qui est mourant et qui a jamais su se comporter avec son fils et son fils n'a jamais su se comporter avec lui. Et à la fin, le fils qui est un peu cupide aussi, mais qui a souffert de cette communication avec son père, va le voir pour essayer justement avant de mourir, d'entendre « je t'ai toujours aimé » ou enfin une banalité du genre qui le rassure pour l'avenir. Et là, le père le regarde et la dernière phrase, à quelque chose près, c'est « je sais ce que tu es venu chercher, mais je ne te le donnerai jamais ». C'est là où j'ai honte, par exemple. C'est 10 fois plus fort, cruel, tordu et humain que tout ce que j'ai fait dans le dernier livre. C'est la même histoire, en fait. C'est la vengeance. Mais là, c'est la vengeance du père.
Il y a des phrases dont vous êtes l'auteur, qui sont inscrites dans votre mémoire.
Je me souviens, en général, de toutes les fins. Les fins. Mais c'est tout. Mais il y en a une dont je suis fier. C'est celle de mon premier livre. Dans Tous les matins, je me lève, où je dis, et je ne vous la garantis pas à la virgule, hein, je ne crois en rien, je ne vaux pas grand-chose, et pourtant, tous les matins, je me lève. Et en écrivant cette phrase-là, je me suis rendu compte, aujourd'hui, que j'avais écrit tout le restant de ma vie. Je suis fier de ça, je suis content de ça. C'est rien, mais c'est un peu, en fait, c'est du Swapdike. Mais il y a tout dedans.
Certains ont la manie de recopier des phrases en lisant, j'en fais partie. À la lecture d'Une vie française de Jean-Paul Dubois, j'avais noté celle-ci. L'aisance, c'est n'être jamais contraint de se donner à fond. Voici Robert Finlay, You Got It. Jean-Paul Dubois, écrivain et édentotémique jusqu'à 10h.
On écoute la voix que vous avez choisie.
Ouais.
Donc c'est Bukowski et c'est son poème style. Intitulé Style. Allez-y, vous pouvez mettre le casque.
Style.
Le style.
Style is the answer to everything.
Le style est la réponse à tout.
A fresh way to approach a dull or dangerous thing.
Une nouvelle façon d'aborder une chose ennuyeuse ou dangereuse.
Do a dull thing with style.
Faire une chose ennuyeuse avec du style est mieux que de faire une chose dangereuse sans style. Faire une chose dangereuse avec du style est ce que j'appelle l'art. La tauromachie peut être un art. La boxe peut être un art. L'amour peut être un art. Ouvrir une boîte de sardines peut être un art. Peu ont du style. Peu peuvent maintenir du style. J'ai vu des chiens avec plus de style que des hommes. Pourtant, peu de chiens ont du style. Les chats en ont, abondamment. Quand Hemingway a étalé sa cervelle sur un mur avec un fusil à pompe, ça, c'est du style. Parfois, certaines personnes peuvent vous donner du style. Jeanne d'Arc, elle est du style. Jean le Baptiste, le Christ, Socrate, César, Garcia Lorca. J'ai rencontré des prisonniers avec du style. J'ai rencontré davantage de gens en prison avec du style que des gens libres avec du style. Le style, c'est une différence, une manière de faire, d'être fait. Six hérons se tenant silencieusement dans un bassin, ou toi, nu, quittant la salle de bain, sans m'apercevoir.
Si vous écoutez ce qu'il dit, c'est con, comme on a dit, ouvrir une boîte sardine. Avec, on peut avoir du style en ouvrant une boîte sardine. Jeanne d'Arc a du style, le Christ a du style.
Et là, tu as du style quand tu sors nu de la salle de bain.
Ça c'est la fin est extraordinaire. Et puis il y a la voix, il a l'air de s'en foutre, c'est calme, c'est paisible.
C'est désinvolte.
Oui, voilà, et c'est le mot exact. C'est désinvolte, c'est dans une université, c'est en direct. Alors, il y a des applaudissements à la fin, et il boit des bières. Quand vous l'avez, si vous le regardez en vidéo, il boit des bières tout en lisant son truc. Et puis, qu'est-ce qui se passe dans la tête de ce mec? Quelle liberté, quelle classe aussi. Et ce type qui est à la fois un alcoolique, c'est pas l'alcoolique céleste et tout ça qui me plaît, c'est cette manière de traverser la vie sur une sorte de tapis roulant, en se disant, bon, écoute, ça sera pas toujours parfait, ça sera même parfois minable, mais on va rigoler, on va passer du bon temps.
Et quand vous parliez du côté désinvolte de Bukowski, par le fait qu'on sente là, il est à l'université, et il met pas plus d'enjeux que ça. Est-ce que vous, c'est aussi à cette distance-là que vous mettez le fait d'écrire?
Ouais, mais moi, je bois pas. Et... non, mais oui, exactement. Je pense que rien n'est important. Rien. Ce qu'on fait, ça n'a pas de sens. Moi, j'ai la chance, je vous l'ai dit tout à l'heure, de faire un métier qui n'existe pas. C'est un truc, c'est un jeu, c'est vaporeux, quoi. C'est un métier vaporeux. Donc, je peux pas prendre ça au sérieux.
Pourtant, il y en a, hein. Il y en a beaucoup, hein, qui prennent la littérature très, très, très au sérieux.
Tout le monde n'habite pas le monde de la même façon. Je fais tout ultra sérieusement, comme un maniaque, comme un horloger. Mais une fois que c'est fait, quoi. On va pas, c'est fini. Moi, j'ai vécu dans une famille où ça va, quoi. Je faisais des livres, mes enfants, ils les découvraient 6 ans après ou 5 ans après. C'est pas magique, un livre n'excuse ni ne donne rien. Et la distance, c'est là où vous avez 100 fois raison, c'est que Bukowski... Il fait son truc. L'important, c'est qu'il l'ait écrit. Il le lit parce qu'il est payé. Vous comprenez? Non, mais c'est vrai, c'est la réalité de Bukowski. Il gagnait sa vie dans des lectures dans les universités. Donc on sent bien que là, il n'y est pas, quoi. Mais c'est bien qu'il n'y soit pas. Ça marche avec l'histoire. Mais...
ça remet les choses à leur place, en fait.
Oui, mais ça marche aussi avec le poème.
Il le dit avec style.
Il le dit avec style et ça finit dans des applaudissements. Et c'est là où il est, où c'est fort et où la vie est marrante, c'est que c'est que des contradictions, c'est des contre-exemples de tout ce qu'on nous apprend, de tout ce qu'on veut nous faire vivre. Il y a un tel décalage entre la vraie vie, ce que j'appelle la vraie vie, c'est-à-dire ce qu'on mène à l'intérieur de nous, et la vie qu'on nous fait mener, c'est-à-dire la vie sociale. Le déphasage est tel, les effrois intimes ou les bonheurs intimes sont d'une telle... d'un tel volume, et la vie sociale est tellement médiocre que je trouve qu'on s'est trompé quelque part dans l'éducation. C'est colossal. On n'a rien appris de l'essentiel au moment où on devait l'apprendre, c'est-à-dire enfant.
Mais ça, c'est la définition de tous les pôles de tous vos romans.
Ça prouve qu'ils sont cohérents, qu'ils sont pas encore délirants. Si, ils ont un délire fixe. Ça, les délires fixes.
Oui. Effectivement, il y a des motifs récurrents de livre en livre qui ont déjà été énoncés, oui, d'ailleurs. Ça. Les voitures, le réconfort qu'on peut trouver auprès d'un chien.
Et des choses. Les voitures, je m'en fous. Mais une voiture, elle compte à partir du moment où elle a transporté mes enfants. J'ai fait une sale action dans ma vie. J'ai vendu une vieille Volkswagen Coccinelle cabriolet que j'avais, mais c'est les années 70-72. Et je l'ai vendu, et quand j'ai vu le type partir avec, j'ai fondu en larmes et j'ai su que je venais faire la première mauvaise action de ma vie. Parce qu'elle avait transporté tous mes enfants. Notamment, on avait fait un Toulouse-Maroc en une journée avec eux, dans une Volkswagen, je ne sais pas si vous imaginez le truc. Et donc cette voiture, elle faisait partie de la maison, quoi. Je vous allais dire, je suis animiste, mais je pense que je dois quelque chose à ces choses qui m'ont tant rendu service et avec lesquelles je vis. Je crée un lien d'intimité. Alors, on peut penser que c'est ridicule, mais je ne pense pas.
La dernière séquence de l'émission, c'est une photo avec un Polaroid. On l'a fait là, comme ça.
Ça va finir comme de la housse. Ainsi va l'actualité, top générique. C'est génial, ça. C'est extraordinaire.
Mais je vous fais confiance, parce que...
Vous voulez pas la regarder?
Je crains de reconnaître le type. C'est comme dans le livre, vous voyez. Je crains de voir arriver la tête de mon père. Ah, j'ai l'air vieux, putain. Là aussi, c'est un truc terrible. C'est comme ma mère, ça. Au moment de ça, ce moment, à la fin, toute fin de sa vie... Elle avait à l'intérieur d'elle cette même vigueur, cette même joie enfantine qu'elle avait à 18 ans. C'était très étonnant de voir ça. Je n'arrive pas à intégrer, quand je vous parle, le visage que j'ai. Le type qui vous parle n'a pas le visage que vous voyez dans ma tête.
Il a quel visage alors ?
Je ne sais pas, un visage beaucoup plus enfantin. Ça, c'est un truc de vieux. Oh, putain, c'est terrible. Mais c'est normal. Comme quoi, il y a toujours deux types qui parlent. Il y a celui que vous voyez et celui qui est à l'intérieur. Et qui, lui, ne bouge pas. Je ne saurais pas vous dire quelle tête il a, mais il ne bouge pas. Il ne bouge pas.
L'origine des larmes, de Jean-Paul Dubois, est publiée par les éditions de L'Olivier. Guillaume Giraud a réalisé cet épisode de Totémique avec Paola Collin et c'était devant quelques élèves de 4e du collège Turgot de Denain qui étaient présents en régie ce matin. Perrine Malinge programme nos invités, Ilinka Negulescu trouve les sons, la documentation et Jean-Baptiste Audibert choisit nos disques. La semaine prochaine, on est au théâtre avec Walidia.